Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Regard aujourd'hui sur une pratique qui avait été abolie dans la plupart des pays européens au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle et qui est redevenue au XXe siècle une méthode de renseignement, une pratique policière et militaire banalisée aussi bien dans les dictatures que dans les États coloniaux. La torture, dont l'usage a connu une nouvelle étape après les attentats de 2001. La guerre totale contre le terrorisme qui a suivi l'attribution de pouvoirs exceptionnels au président des États-Unis. Les États-Unis l'ont beaucoup utilisé. L'Airbus fut-elle pour autant une exception? La question est posée alors que dans le même temps, le gouvernement canadien a autorisé à son tour les services de renseignement à utiliser des informations obtenues sous la torture. Regard sur la géographie de la torture, sa banalisation, la torture, une pratique dont on peut se demander si elle ne s'est pas imposée au cœur du débat public et démocratiquement instituée comme une méthode de rétorsion envisageable, voire nécessaire et potentiellement légale. Nos invités, ils sont trois, en duplex depuis les bureaux de nos confrères de France Bleu Provence, Michel Terechenko, philosophe et universitaire, auteur de « Du bon usage de la torture » ou « Comment les démocraties justifient l'injustifiable » aux éditions La Découverte. Bonjour.
Bonjour.
Serge Portelli, magistrat et auteur de l'ouvrage « Pourquoi la torture ?» paru aux éditions Vrin. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Étienne de Linares, délégué général de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, dont le rapport 2014 dresse un état des lieux du phénomène torsionnaire dans le monde. Bonjour.
Bonjour.
Un monde torsionnaire, c'est donc sous ce titre que l'ACAT publie son rapport 2014, le quatrième consacré à l'étude du phénomène torsionnaire dans le monde. Il vise à analyser les pratiques torsionnaires sur différents continents, tout en poursuivant le travail d'éclairage historique, politique, psychologique et culturel de ce phénomène. Le rapport souligne notamment l'utilisation par les États de la torture psychologique, aussi appelée torture blanche ou torture propre, moins visible mais plus acceptable, afin de se prévenir d'éventuelles actions judiciaires et pour assurer devant leur opinion publique le recours à des mesures extrêmes censées assurer leur sécurité. Nous reviendrons sur la torture à proprement parler psychologique. Dans un premier temps, qu'est-ce que finalement la torture, où commence-t-elle et en quoi se distingue-t-elle du traitement inhumain ou cruel, Michel Terechenko?
C'est une distinction qui n'est pas toujours aisée à établir. Il y a une définition de la torture qui est donnée par la Convention des Nations Unies contre la torture de 84. Donc on a un certain nombre de critères distinctifs, la douleur, la souffrance, le caractère délibéré, le fait que le bourreau agit dans le cadre d'institutions étatiques, la recherche de l'aveu. Donc il y a une distinction qui est établie entre les deux, mais en fait elle n'est pas ni véritablement juridiquement constituée, ni si aisée à établir en termes de gravité, d'autant plus que, comme vous l'avez rappelé, il y a une distinction qui est dans les pratiques entre la torture physique et la torture psychologique. Et là encore, entre ce qui relève d'actes humiliants et dégradants et de véritables tortures psychologiques n'est pas toujours facile à faire.
Serge Portelli, Jean-Étienne de Linares, une réaction à ce que vient de dire Michel Terechenko. Vous partagez, Serge Portelli?
Oui, mais votre question peut apparaître juridique, j'allais presque dire, c'est quoi la définition de la torture? Mais en fait, c'est une question qui est beaucoup plus fondamentale qu'on l'imagine. Pourquoi? Parce que certains États, et des plus huppés en matière de démocratie, j'allais dire, se sont engouffrés précisément dans cette question-là, en essayant de faire dire que les pratiques qu'ils utilisaient n'entraient pas très exactement dans la définition juridique de la torture qui est donnée par les conventions internationales, on vient de rappeler celle de 84, ou par des textes de loi. Et notamment les États-Unis, pour les citer, ont passé un temps infini au plus haut niveau de l'État fédéral des États-Unis, où on a essayé, à la suite de rapports extrêmement documentés, de dire « mais non, le waterboarding par exemple, Non, c'est pas de la torture, c'est juste un petit peu à côté, vous voyez ? Et donc, du coup, on n'est pas répréhensible, on a le droit de faire ça. Donc, cette question de la définition de la torture, c'est pas du tout une simple question juridique, c'est vraiment une des clés de la lutte contre la torture.
Jean-Étienne Delénard.
Oui, puis j'ajouterais que lorsqu'on parle de la torture et qu'on veut comprendre de quoi il s'agit, la première chose qui vient, c'est la notion de souffrance, des sévices qui sont infligés. Je crois que ce qui est très important aussi d'ajouter, c'est la notion, Dierjenko l'a dit, mais c'est la notion d'intentionnalité. C'est-à-dire qu'on torture avec un but. Mmh. Et quel est ce but? Le but, c'est d'obtenir des renseignements, mais pas seulement. Ça aussi, c'est une image qui est trop immédiate. D'obtenir des renseignements, mais aussi, on y reviendra, des aveux, de faire souffrir, de punir. Donc, cette affaire-là est très importante. Autre chose qui est très importante aussi, et là, je me place cette fois, un peu comme le faisait Serge Portelli, non plus dans un aspect juridique, mais du côté des victimes. Si je me place du côté des victimes, on a eu une fois le témoignage de quelqu'un qui nous disait, au fond, la torture, ça commence à partir de la première gifle, du premier coup qu'on me donne, et que je suis absolument pas en mesure de rendre. Je crois qu'il y a là une notion qui est importante, c'est cette notion...
Ça, c'est de la torture ou un mauvais traitement, Jean-Étienne de Linares? La frontière est extrêmement ténue.
La frontière est tout à fait ténue. Quand je disais gifle, ce que je voulais dire, c'est simplement la première forme de sévice. En réalité, la plupart de ces sévices sont beaucoup plus graves. Mais je voulais indiquer cette notion de contrainte qui est terrifiante. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Vous êtes enchaîné, vous êtes aveuglé. Vous avez ce genre de pratiques qui font que, dans la torture, il y a cette notion profonde de déshumanisation. Celui que vous avez entre les mains, on va lui retirer profondément son humanité.
Et peut-être juste un petit rappel, c'est que on dit souvent, et moi au début quand j'ai commencé à étudier un peu profondément ce sujet, la torture c'est fait pour arracher des aveux, c'est fait pour faire parler. Mais en fait, oui et non. C'est-à-dire que la torture, c'est fait aussi pour faire taire. Et je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Il y a effectivement, je vais presque dire, la méthode, la cuisine, j'allais presque de la torture, c'est effectivement faire souffrir quelqu'un pour qu'il dise quelque chose. Mais j'allais presque dire, c'est peut-être pas le plus important. Le plus important pour les tortionnaires, c'est que ça se sache, même si c'est plus ou moins secret. C'est-à-dire que on impose finalement cette loi de la terreur qui est imposée par la torture. Et la torture, en fait, elle a deux objectifs, j'allais dire, elle a deux buts. Elle a celui qui est torturé, qui lui, effectivement, a intérêt à parler. Mais il y a tous les autres qui, eux, finissent par apprendre. Et on s'arrange, d'ailleurs, pour que ça se sache. Et ceux-là, ils vont se taire. Ils vont se taire parce que le but de la torture, c'est de terroriser, c'est de faire peur. Et c'est finalement d'empêcher la parole. C'est un paradoxe qu'il faut toujours avoir à l'esprit, parce que, évidemment, la plupart des pays qui torturent, c'est des pays de silence.
Oui, les exemples de la Syrie, par exemple, à l'heure actuelle, ou de l'Ukraine, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que des gens sont arrêtés, torturés, finalement, dans certains cas, relâchés relativement vite, pour, comme vous l'avez dit, faire peur, pour dire « voilà ce qu'il en coûte de vous révolter ».
Alors, cette notion de terreur, elle est finalement, et je me tourne vers vous, Michel Terechenko, ce qu'il y a de plus commun entre la torture physique et la torture psychologique, qui est donc le thème du rapport 2014 de la CAT.
Je voudrais juste revenir sur quelques points qui viennent d'être évoqués et qui sont très importants. D'abord, la première chose, je crois qu'il faut refuser quand même une certaine forme de métaphorisation de la torture. Vous savez, c'est une expression qu'on emploie assez souvent dans le langage quotidien.
C'est-à-dire,
on peut parler de gens qui peuvent dire qu'ils ont été torturés ou qu'ils ont subi toutes sortes de harcèlement ou de situations. Enfin, il y a une certaine tendance, parfois, dans le langage ordinaire à la métaphorisation de la notion. Et moi, je crois qu'il est très important de, même qu'on peut aussi métaphoriser les notions de guerre, etc. On parle de guerre économique, etc. Mais il y a quand même une réalité effroyable et épouvantable des pratiques de la torture, quelle que soit la distinction dont on a parlé, mais quelque chose qui relève en fait d'une souffrance extrême qui est infligée avec les caractéristiques qu'on a désignées. Et donc il faut refuser cette métaphorisation de la notion pour la ramener précisément à ce dont il s'agit véritablement et qui est en effet tout à fait effroyable. Sur la question aussi de c'est très important en effet qu'en fait il ne s'agit pas tant de rechercher des aveux, même si c'est l'objectif qui est explicitement avoué, parce qu'en réalité, et bien davantage en effet de terroriser la population, tout simplement parce que les services de renseignement savent que la pratique de la torture est le moyen le moins fiable en vue de l'obtention de de renseignement. Donc s'il s'agissait en réalité de cela, ce n'est pas à la torture qu'il s'agirait d'avoir recours. Le but est en réalité tout à fait différent, précisément donc ce but de terrorisation de la population. Et sur la question de l'intentionnalité, c'est un point qui est très important. Mmh. C'est un argument qui a servi aux juristes américains. Vient d'être rappelé, en effet, le rôle qu'ils ont joué très important aux États-Unis au lendemain des attentats du 11 septembre pour justifier la pratique de la torture, en disant, mais finalement, il n'y a pas du tout d'intention de faire souffrir, il y a simplement la volonté de rechercher la vérité, d'empêcher surtout des attentats d'avoir lieu, et donc du fait qu'il n'y a pas de véritable intention de faire souffrir, eh bien, on ne peut pas qualifier ces actions de torture. Et ça, c'est un argument, évidemment, extraordinairement pervers, parce que ça a permis justement à ces juristes américains de très haut niveau, dans des mémos qui font des milliers de pages, en effet, de justifier la pratique de la torture et d'empêcher que les tortionnaires soient traduits devant les tribunaux. Enfin, de préparer en tout cas tout un système de justification de type juridique.
Serge Portelli, Jean-Diane de Linares.
Oui, c'est quelque chose de très important, cette notion-là. Revenir sur cette notion de renseignement, c'est-à-dire que le fait d'obtenir des renseignements, c'est au fond l'ultime argument des tortionnaires, de ceux qui veulent justifier la pratique de la torture, bah parce que il y a la lutte contre le terrorisme. C'est l'argument façon Jack Bauer 24 heures chrono de dire bah oui mais il faut torturer celui qui va savoir où est la bombe. Il faut savoir que cette affaire-là est une escroquerie intellectuelle, c'est-à-dire que les choses bien entendu ne se passent jamais comme ça. Les systèmes tortionnaires qui se mettent en place sont beaucoup plus larges. On ne torture pas précisément celui qui sait où est la bombe. Ce sont des choses qui n'existent pas. Cet argument a toujours été employé, c'était le cas notamment pendant la guerre d'Algérie. Alors en fait, on sait que la réalité de la torture était tout autre.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'en fait, on retombe dans ce qui a été décrit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de torturer une personne par-ci, par-là, soi-disant, pour prévenir un attentat, mais au contraire, torturer de façon beaucoup plus large, de façon à terroriser ceux qui ont envie de s'opposer, ceux qu'on veut contraindre de cesser leurs activités.
Serge Portelli.
Oui, ce qui est intéressant aussi dans votre façon de présenter l'émission, c'était de dire qu'il y avait finalement une histoire de la torture, et cette histoire, on la présente assez souvent, comme vous l'avez fait, c'est-à-dire la plupart des pays occidentaux ont, à la fin du XVIIIe siècle, aboli la torture, et ensuite, effectivement, elle est réapparue. À mon avis, elle n'a jamais cessé, mais... J'ai peur que cette façon de présenter les choses, qui est la façon la plus courante de le faire, soit un petit peu, européanisée. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être avoir une vision plus large de la pratique de la torture dans le monde, parce que finalement l'Europe, même si intellectuellement c'est énorme, c'est jamais qu'une toute petite partie du monde. Et dans le monde, en fait, la torture n'a jamais cessé. Enfin, nous, Louis XVI a aboli la torture, il y a eu plein d'autres pays. Mais tous les autres pays dont on parle, tous ceux qui sont dans votre rapport de 2014, mais ceux des années précédentes, il n'y a jamais eu, finalement, cette histoire. On est toujours resté dans cette pratique. Et finalement, le seul fait juridique important qui soit apparu... C'est plutôt la déclaration, enfin la convention de 1984. Donc, il faut bien avoir en tête finalement qu'on n'a pas la même histoire. C'est-à-dire, toutes les abolitions européennes qu'on a connues, ça n'a pas la même ampleur en Asie, en Amérique, dans les pays asiatiques, tous ces pays aujourd'hui où on a l'impression finalement que ça a toujours été comme ça. Et finalement. On parle de dictature aujourd'hui, mais est-ce qu'il n'y a jamais eu le moindre semblant de démocratie dans ces pays-là ? Donc, je pense que c'est un angle d'analyse qu'il faut garder à l'esprit, parce que finalement, il n'y a pas les mêmes références.
Jean-Étienne de Linares.
Oui, vous avez tout à fait raison. Et nous, on a essayé de mesurer l'ampleur du phénomène, puisque on a abordé le problème des démocraties, mais ça va effectivement bien au-delà. Et ça va même tellement au-delà que... En réalité, on estime que c'est un pays sur deux, à peu près 200 pays hein, qui sont dans la liste des pays. Et bien sûr, ces 200 pays, il y en a un peu plus d'une centaine dans lesquels on pratique la torture. Et quand je dis qu'on pratique la torture, c'est pas une exception. Il s'agit pas de quelques bavures policières par-ci, par-là. Il s'agit au contraire de choses qui existent régulièrement, tous les jours, quotidiennement, avec l'assentiment ou au moins la tolérance des autorités en place. C'est-à-dire que il y a effectivement, en plus, c'est ça qu'on voit pas souvent, c'est qu'il y a les opposants de toutes sortes dans les régimes les plus autoritaires qui sont menacés. C'est une frange importante. Mais c'est pas la frange la plus importante des gens qui sont torturés. La grande masse des endroits où on torture, à ce moment-là, les victimes, ce sont en réalité les prisonniers de droit commun. C'est très important de saisir cette chose-là. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, à deux niveaux, vont être torturés. Dans un premier temps, ils vont sont torturés pour obtenir des aveux. C'est-à-dire que la torture est d'une méthode d'enquête comme une autre, tout simplement. Donc on va, pour rechercher un criminel, ben on va, à tort ou à raison, prendre quelqu'un et puis taper dessus, parce que c'est beaucoup plus simple pour qu'il avoue plutôt que de mener un travail d'enquête classique à base de recherche de témoins, d'indices, etc. Et puis dans un deuxième temps, parce que dans ce système, les juges auront accepté les aveux obtenus sous la torture, le gars va se retrouver en prison. Et en prison, les tortures vont continuer, à la fois comme système de maintien de l'ordre, et puis aussi comme une sorte, peut-être y reviendra-t-on, mais de punition nécessaire.
C'est ce qui rend, à mon avis, la lutte contre la torture extrêmement difficile. Parce que si la victime de l'action d'un État est finalement quelqu'un de bien, j'allais dire, quelqu'un qui nous ressemble...
Un bon résistant,
un intellectuel, un opposant politique, comme on en connaît beaucoup. Voilà, Nelson Mandela, génial, quoi. Bon, c'est facile. Tout le monde peut se mobiliser. Mais à partir du moment où la victime, et c'est ce que vous venez de dire, je pense que c'est un des apports essentiels des rapports de la CAT, à partir du moment où cette victime est finalement quelqu'un de pas terrible, de pas très recommandable, le délinquant, celui contre lequel on nous dit chaque jour qu'il faut prendre les mesures les plus répressives, les plus dures, avec une tolérance zéro. On n'a pas tellement envie de se mobiliser pour lui. Enfin, aujourd'hui, je prends l'exemple de la France, mais qui se mobilise aujourd'hui pour le sort des détenus? Pas grand monde. Voilà. Il y a quelques organisations qui, l'OIP ou d'autres, qui sont là, mais l'opinion publique est relativement indifférente à tout ça. Transposer cette situation, cet état d'esprit dans d'autres pays, où l'opinion publique a moins de force, où la classe intellectuelle est moins présente, vous verrez que, c'est ce que vous constatez, il n'y a pas grand monde pour se mobiliser. Qui va se mobiliser pour des trafiquants de drogue qui sont détenus dans une prison pourrie du Guatemala? À part les organisations, les ONG que vous êtes et qu'on connaît, pas grand monde. Il va y avoir quelques fonctionnaires de l'ONU. Voilà. Donc la difficulté de la lutte contre la torture, c'est de penser que finalement, il faut s'intéresser à toutes les victimes, quelles qu'elles soient. Alors évidemment, on peut toujours dire que parmi les gens qui sont détenus, il y a quelques innocents. Mais ça, oui, c'est vrai, mais c'est presque dommage. Il faut défendre des gens qui sont accusés d'avoir fait des choses, des infractions, des trafics, et même, ça va peut-être faire bondir, mais même des terroristes, oui, ou des présumés terroristes. Voilà, la démocratie, l'esprit démocratique ne s'arrête pas là. Et précisément, l'intérêt de cette lutte, c'est de s'occuper des gens les plus exclus, les plus défavorisés, les plus rejetés de la société. Oui, c'est à ça qu'on reconnaît effectivement une démocratie.
Je fais réagir Michel Tereschenko, une minute pour répondre et on reprendra, je vous redonnerai la parole pour la deuxième partie de l'émission. Michel Tereschenko.
Oui, je crois que ce qui vient d'être dit par Sacha Pordeli est évidemment très important. Le désintérêt relatif, même assez considérable à l'égard de ces pratiques de la torture qui sont en réalité et qui aussi sont des pratiques invisibles qui se font dans le secret et qui ne font pas l'objet d'une médiatisation possible parce que tout simplement il n'y a pas d'image. Mais je voudrais revenir sur un point sur la question de la banalisation. Parce que c'est vrai, bien sûr, qu'il y a de nombreux États où la pratique de la torture est en réalité tout à fait banale.
Michel Tereschenko, je vous propose de je vous donne la parole en démarrant la deuxième partie de l'émission
Très
sur
bien.
La banalisation de la torture. Sinon, on est obligé de vous couper, ce qui serait vraiment dommage. Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Michel Tereschenko, Serge Portelli et Jean-Étienne de Linares dans quelques instants. À tout de suite.